Marchande de sable, esprit et créature du Japon, de Lafcadio Hearn, illustré par Benjamin Lacombe. La mort d'un canard sauvage. Il y avait autrefois un fauconnier et chasseur nommé Sonjo qui habitait la province de Mutsu. Il partit un jour à la chasse, mais ne rencontra aucun gibier. Vers le crépuscule, il reprit le chemin de sa demeure. Il était las et fatigué. Il arriva bientôt devant une large rivière, très profonde, qu'il lui fallait traverser. Au loin, dans la brume de la nuit tombante, il aperçut un couple d'oshidori qui nageaient paisiblement, côte à côte. Bien que cela porte, dit-on, malheur de tuer l'un de ces oiseaux, Sonjo tira son arc et visa le couple, car il avait très faim. La flèche, traversant l'espace, transperça le mâle. La femelle parvint à s'échapper et disparut parmi les hauts roseaux qui bordaient le côté opposé du fleuve. Sonjo rapporta son butin chez lui et le fit cuire pour son repas du soir. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Il rêva qu'une jeune femme, très belle, entrait dans sa chambre et se tenait à son chevet. Elle sanglotait éperdument, et ses pleurs étaient si amers que Sonjo, qui l'écoutait, crut que son cœur allait se briser de chagrin. La belle inconnue lui dit « Pourquoi ? Oh, pourquoi l'avez-vous tué ? Que vous avait-il fait ? De quoi était-il coupable ? Nous étions si heureux tous les deux à Akanuma. Vous l'avez tué. Comprenez-vous seulement l'étendue de votre crime ? Mais vous ne pouvez vous imaginer toute la lâcheté et la cruauté de votre action. En tuant mon bien-aimé, vous avez décrété ma propre mort. Je ne survivrai pas à mon mari. Voilà ce que je suis venu vous dire. » Et elle récita ce poème d'une voix désespérée, entrecoupée de pleurs. Lorsque le jour tomba, je l'invitai à m'accompagner. Maintenant, après une période de relations heureuses, combien est triste le sort de celle qui doit dormir seule à l'ombre des roseaux. Puis elle s'écria de nouveau. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais demain, lorsque vous vous rendrez à Akanuma, vous comprendrez. » Et après avoir longuement contemplé Sonjo, elle disparut. Le matin suivant, lorsqu'il s'éveilla, ce songe était si présent à l'esprit du chasseur qu'il en fut très troublé. Il se souvint des mots « Mais demain, lorsque vous vous rendrez à Akanuma, vous comprendrez. » Et il résolut d'y aller tout de suite afin de bien s'assurer que son rêve n'était qu'un rêve. Il s'en fut donc à Akanuma. Lorsqu'il arriva à la rivière, il vit l'oshidori femelle qui la nageait, solitaire. En l'apercevant, elle n'essaya pas de s'enfuir. Au contraire, elle se dirigea vers lui en le contemplant d'un regard aigu. Puis, parvenue tout près de lui, elle s'ouvrit soudain le flanc d'un coup de bec et mourut sous les yeux du chasseur épouvanté. Sonjo se rasa la tête et devint prêtre. Celui qui voulait voir l'éléphant blanc à six défenses. Il y avait une fois un prêtre très pieux et très lettré appelé Shoku Shonin qui vivait dans la province de Harima. Pendant plusieurs années, il médita chaque jour sur le chapitre de Fugen Bosatsu dans le lotus de la bonne loi. Et il avait l'habitude de prier chaque matin et chaque soir pour qu'il lui fût permis à un moment quelconque de voir Fugen Bosatsu comme une personnalité vivante et dans la forme décrite par le texte sacré. Un soir, lorsqu'il récita le sutra, une torpeur le surprit et il s'endormit, s'appuyant sur son kyosoku. Alors il rêva, et dans son rêve, il entendait une voix qui lui disait qu'il fallait se rendre à la maison d'une certaine courtisane connue sous le nom de Yujuno Shoja, qui vivait dans la ville de Kanzaki. Dès son réveil, il résolut d'aller à Kanzaki et se hâtant autant que possible, il parvint à la ville dans la soirée du lendemain. Lorsqu'il pénétra dans la maison de la Yujo, il y trouva assemblées de nombreuses personnes, pour la plupart des jeunes gens de la capitale, qui avaient été attirés à Kanzaki par la renommée de la beauté de cette femme. Ils festoyaient et buvaient, et la Yujo jouait d'un petit tambour, un zumo, dont elle se servait très habilement tout en chantant une chanson. C'était une vieille chanson japonaise à propos d'un sanctuaire célèbre dans la ville de Murozumi, et les paroles étaient les suivantes. À l'intérieur du réservoir sacré de Murozumi, même si le vent ne souffle point, la surface de l'eau ondoie toujours. La douceur de sa voix remplit chacun de surprise et de joie. Comme le prêtre qui avait pris place à part écoutait en s'émerveillant, la fille fixa tout à coup son regard sur lui, et au même instant, il la vit se transformer en un Fugen Bosatsu, tandis que de son front irradiait un rayon lumineux qui semblait percer au-delà des limites de l'univers et qu'elle chevauchait un éléphant à six défenses, blanc comme la neige. Elle continua à chanter, mais maintenant la chanson était également transformée, et voici les paroles qui parvinrent aux oreilles du prêtre. Sur la vaste mer de la cessation, bien que les vents et les six désirs et les cinq conceptions ne soufflent jamais, cependant la surface de cet abîme est toujours agitée par la houle de l'acquisition de la réalité en soi. Ébloui par le rayon divin, le prêtre ferma les yeux, mais il voyait encore la vision très distinctement à travers ses paupières. Lorsqu'il les rouvrit, elle s'était dissipée. Il ne voyait plus que la fille avec son tambourin et il n'entendait que la chanson sur l'eau de Murozumi. Mais il se rendit compte qu'aussi longtemps qu'il fermait les yeux, il lui était possible de voir Fugen Bosatsu sur l'éléphant à six défenses et qu'il pouvait entendre la chanson mystique sur la mer de la cessation. Les autres personnes présentes ne voyaient que les Yujo et n'avaient pas contemplé la manifestation. Alors la chanteuse disparut tout à coup de la salle du banquet et nul ne put dire où ni comment. Dès ce moment, les festivités cessèrent, la tristesse remplaça la joie. Et après avoir attendu et cherché la fille en vain, la compagnie se dispersa, très morose. Le prêtre partit le dernier, ahuri par les émotions de la soirée. Mais à peine avait-il dépassé la grille que la Yujo parut devant lui et lui dit « Ami, ne parlez à personne de ce que vous avez vu cette nuit. » Et en prononçant ces mots, elle disparut, laissant l'air tout embaumé d'un parfum délicieux. Le moine qui rapporte cette légende la commente en ces termes. La condition d'une Yujo est basse et misérable, puisqu'elle est condamnée à servir le désir des hommes. Qui donc pouvait s'imaginer qu'une femme pareille pourrait être la réincarnation ou Nirmanakaya d'un Bodhisattva ? Mais il nous faut nous rappeler que les Bouddhas et les Bodhisattvas peuvent apparaître dans ce monde en des formes innombrables, choisissant pour le but de leur compassion divine même les formes les plus humbles et les plus méprisables. Lorsque ces formes peuvent servir à mener les hommes dans la voie véritable et les sauver des périls de l'illusion. Le faisan et le parricide. Un jeune fermier vivait jadis avec sa femme dans la province de Bishu, district de Toyama. Leur ferme se trouvait dans un endroit solitaire parmi les collines. Une nuit, la fermière rêva que son beau-père, mort quelques années auparavant, s'avançait vers elle et lui disait « Demain, je serai exposée à un très grand danger. Sauvez-moi si c'est possible. » Le matin venu, elle conta son rêve à son mari. Ils en discutèrent la signification. Tous deux étaient d'avis que le défunt désirait quelque chose, mais ils furent incapables de concevoir ce que signifiaient les paroles entendues. Après le déjeuner, l'homme se rendit au champ. La femme demeura devant son métier à tisser. Soudain, de grands cris s'élevant au dehors la firent tressaillir. Elle courut à la porte et vit que le Jito du district, accompagné d'une bande de chasseurs, s'approchait de la ferme. Tandis qu'elle les regardait, un faisan courant tout près d'elle se réfugia dans la maison. Alors, tout d'un coup, elle se souvint de son rêve. « C'est peut-être mon beau-père, » pensa-t-elle. « Il faut que j'essaie de le sauver. » Elle rentra bien vite à la suite de l'oiseau, un superbe coq faisan, et l'ayant pris sans aucune difficulté, elle le cacha dans une jarre à riz qui était vide et qu'elle recoiffa de son couvercle. Presque au même instant, les hommes du Jito entrèrent. Ils lui demandèrent si elle n'avait pas vu un faisan. Elle répondit hardiment que non, mais un chasseur prétendit qu'il avait aperçu la bête qui entrait dans la maison. Les hommes se mirent donc à sa recherche, explorant soigneusement les moindres recoins. Aucun ne songea à visiter l'intérieur de la jarre. Après qu'ils eurent tout bouleversé dans sans résultat, les hommes décidèrent que l'oiseau s'était échappé par quelques trous et ils quittèrent les lieux. Quand le fermier rentra, sa femme lui raconta l'histoire du faisan qu'elle avait laissé dans la jarre afin qu'il pût le voir. « Quand je m'en suis emparée, dit-elle, il ne s'est pas débattu le moi du monde. Depuis, il est demeuré bien tranquille dans ce pot. Je suis vraiment convaincue que c'est mon beau-père. » Le fermier alla au récipient, le découvrit et en retira l'oiseau. Celui-ci se tenait immobile entre ses mains, comme apprivoisé. Il regardait l'homme et semblait tout à fait habitué à le voir. Le faisan était borgne. « Mon père avait perdu un œil, dit le paysan. L'œil droit, et c'est bien l'œil droit qui manque à la bête. En vérité, je crois que c'est mon père. Vois donc, il me regarde exactement comme il avait coutume de le faire. Ce pauvre père saut d'être dit. À présent que je suis oiseau, il vaut mieux donner mon corps à mes enfants pour qu'ils leur servent de nourriture que de permettre à ces chasseurs d'en faire leur proie. Voilà qui explique le rêve de la nuit dernière, ajouta-t-il. Et se retournant du côté de la fermière avec un rire cruel, il tordit le cou du faisan. À la vue de cet acte brutal, la femme se mit à pleurer en disant « Oh, méchant homme ! Démon ! Seul un être au cœur de démon est capable de ce que vous venez de faire. Plutôt mourir que de rester la compagne d'un homme comme vous. » Sur ces mots, elle bondit au dehors, sans même prendre la peine de mettre ses sandales. Son mari la saisit par la manche comme elle se précipitait, mais elle s'arracha de ses mains et se mit à courir tout en sanglotant. Les pieds nus, elle poursuivit sa course jusqu'à ce qu'elle atteignît la ville, où elle ne s'arrêta qu'aux portes du palais du Jito. Là, tout en larmes, elle raconta au seigneur ce qui s'était passé. Son rêve de la nuit qui avait précédé la chasse, comment elle avait caché le faisan pour le sauver, enfin la manière dont son mari s'était moqué d'elle et avait massacré l'oiseau. Le Jito lui parla avec douceur et donna des ordres pour qu'elle fût bien traitée. Il commanda ensuite à ses officiers de s'emparer du mari. Le jour suivant, le fermier fut amené pour être jugé. Après qu'on lui eut fait avouer ce qui s'était passé au moment où il avait tué le faisan, la sentence fut prononcée. Le Jito lui dit « Seul un être au cœur mauvais peut faire ce que vous avez fait. La présence d'une créature aussi pervertie est une disgrâce pour la communauté au sein de laquelle elle réside. » Les hommes placés sous notre juridiction respectent les sentiments de la piété filiale et l'on ne saurait tolérer désormais que vous demeuriez encore au milieu d'eux. En conséquence, le fermier fut banni du district. On lui défendit d'y entrer jamais, sous peine de mort. Mais à la femme, le Jito fit donation d'une terre et plus tard, il lui procura un excellent mari. »